Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 5 novembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. L'Iran est déterminé à faire lever les sanctions imposées injustement au peuple iranien, a souligné le président Ebrahim Raisi. Les États-Unis n'ont que deux choix. Soit ils se retirent de la région, soit ils subissent le gifle, a souligné le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami. Riyad dicte des conditions impossibles. Nous ne pouvons pas lui donner la tête du Hezbollah, a souligné le ministre de libanais des Affaires étrangères. Et le chef du syndicat des journalistes palestiniens a révélé que la Cour pénale internationale a condamné une procédure judiciaire concernant des crimes de guerre israéliens commis contre des journalistes palestiniens. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Soulignant que la République islamique d'Iran est déterminée à poursuivre une politique menant à la levée et à la neutralisation de toutes les sanctions anti-iraniennes, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré le peuple de la République islamique d'Iran salue les actions intelligentes et la brave autorité des gardiens des frontières du pays et y rend hommage. L'histoire de l'inimitié américaine à l'égard du peuple iranien ne remonte pas à 40 ans. Cette hostilité a déjà plus de 70 ans, a souligné le président Raisi. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaires politiques. À l'occasion de la commémoration de la journée de la lutte contre l'arrogance mondiale, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a violemment critiqué les États-Unis, les taxant de l'usine de fabrication des dictatures dans le monde. Les Américains ont pris l'habitude de subir des défaites, l'une après l'autre, de la part du peuple iranien, mais ils n'en ont pas encore tiré les leçons, a-t-il souligné. Or, a-t-il ajouté, l'hégémonie des États-Unis est en train de s'estomper, de se dilapider. Et il a aussi dénombré de son intervention américaine dans les affaires internes des autres pays sur tous les plans, dont les coups d'État militaires, les embargos économiques, les guerres militaires et les isanies internes. Le but des négociations n'est pas un verbiage, mais arriver à un accord tangible basé sur le respect des intérêts mutuels. Les 4 plus 1 devrait donc se préparer pour des négociations basées sur le respect des intérêts et des droits mutuels, a souligné le ministre iranien des Affaires des étrangères, Hossein Amir Abdollahian. S'attardant sur le fait que les nouvelles sanctions des États-Unis contredisent leur volonté de revenir sur l'accord nucléaire, Hossein Amir Abdollahian a précisé que la Maison-Blanche plaide pour des négociations avec l'Iran et se dit prêt à retourner au plan global d'action conjoint, mais impose en même temps de nouvelles sanctions aux particuliers et aux entreprises iraniennes, a-t-il souligné. Nous évaluons attentivement le comportement de M. Biden, a-t-il conclu. Le représentant de la République islamique d'Iran, intervenant à la réunion du comité politique et de la décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies, a répondu avec force aux accusations du régime sioniste et aux revendications des Émirats arabes unis et du Maroc concernant les trois îles iraniennes, avant de réagir sur la distorsion du nom du golfe Persique, un nom qui remonte à l'histoire des eaux méridionales de l'Iran. Le représentant de la République islamique d'Iran a déclaré lors de cette réunion que les trois îles iraniennes mentionnées font partie intégrante des territoires des Iraniens et il faut donc rejeter toute revendication contraire à cette réalité. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Abu Habib, a déclaré que l'Arabie saoudite impose des conditions impossibles en demandant au gouvernement de limiter le rôle du Hezbollah. Le chef de la diplomatie libanaise a jugé hors de question des excuses du gouvernement à l'Arabie saoudite, car il ne s'était pas trompé, et de souligner que le Hezbollah ne contrôle pas le pays, il fait partie des composantes politiques principales qui a une extension militaire qu'il n'utilise pas contre le Liban. Nous sommes confrontés à un gros problème. Si les Saoudiens veulent la tête du Hezbollah, nous ne pouvons pas la leur donner, a-t-il conclu. Le chef du syndicat des journalistes palestiniens, Nasser Abu Bakr, a révélé que la Cour pénale internationale, CPI, a entamé une procédure judiciaire concernant des crimes de guerre israéliens commis contre des journalistes palestiniens. Lors d'une conférence de presse, Abu Bakr a déclaré que le commandement de l'armée israélienne a donné l'ordre à des soldats de tuer des journalistes palestiniens. Par conséquent, les officiers israéliens devraient être tenus responsables de ces actions et ils doivent répondre de leurs crimes, a-t-il souligné encore. Tunisie, les délais de mesures exceptionnelles seront abrégés selon le président Kais Saied. Président du conseil ministériel, le président tunisien Kais Saied a confirmé qu'il a l'intention d'écouter les délais d'écourter les délais de ces mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet dernier. Ces mesures exceptionnelles ont été décidées dans une tentative de sauvetage du pays et de notre peuple, a souligné M. Saied dans une vidéo diffusée par la présidence de la République. Il a insisté sur sa volonté et sa détermination à garantir les droits et les libertés de tous les citoyens en adéquation avec les dispositions de la Constitution. La démocratie ne va jamais de pair avec l'hypocrisie, a-t-il déclaré. Toujours d'après la présidence de la République tunisienne, M. Saied a également annoncé que le texte décret présidentiel portant sur l'organisation d'un dialogue national sera mis à l'examen lors d'un prochain conseil des ministres. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de la Tunisie, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran est déterminé à faire lever les sanctions, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Soulignant que la République islamique d'Iran est déterminée à poursuivre une politique menant à la levée et à la neutralisation de toutes les sanctions iraniennes, le président Ebrahim Raisi a déclaré « Le peuple de l'Iran islamique salue les actions intelligentes et la brave autorité des gardiens des frontières du pays et y rend hommage ». Lors d'un déplacement, Sayed Ebrahim Raisi a insisté au rassemblement des habitants de la ville centrale de Semnan, tenu à l'occasion de la journée de 13 Aban, 4 novembre, marquant la lutte iranienne contre l'arrogance mondiale à sa tête, les États-Unis. L'histoire de l'inimité américaine à l'égard du peuple iranien ne remonte pas à 40 ans. Cette docilité a déjà plus de 70 ans. La vérité, c'est qu'au cours des 30 premières années de leurs antécédents, les États-Unis ont réussi à piller les richesses et les intérêts du peuple iranien par des coups d'État avec l'aide des dictateurs fantoches à la solde, mais au cours des 43 dernières années qui ont suivi la victoire de la révolution islamique, la nation iranienne a su gagner la bataille contre les animosités sans fin des États-Unis, a insisté le président Raisi. Le peuple iranien a toujours condamné les actions interventionnistes et intimidatrices des Américains dans la région, y compris leur récente action, et a toujours apprécié les réponses intelligentes et fortes de gardiens zélés des frontières de la dignité et de l'indépendance du pays, a-t-il souligné. Plus loin dans ses propos, le président Raisi a réaffirmé que l'Iran souhaite voir des résultats tangibles lors des prochaines négociations avec les 4+1 sur la levée des sanctions imposées au pays. Il a précisé que l'Iran n'abandonnera pas la table des négociations, mais refusera de se plier à des velléités maximalistes avancées par la partie d'en face qui vont à l'encontre des intérêts nationaux iraniens. Le président Raisi, qualifiant d'injuste les sanctions américaines contre la nation iranienne, a exhorté Washington à les lever. L'Iran a affirmé que les pourparlers avec les 4+1, les 5 parties récentes de l'accord nucléaire, Chine, Russie, France, Allemagne, Royaume-Uni, sera le 29 novembre.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, de la façon dont cette rencontre s'est déroulée et bien sûr ses répercussions. L'opposition française n'a pas hésité de qualifier cette rencontre de humiliante, totale. Et justement, pourquoi ? Car la crise des sous-marins de l'Australie, un contrat important militaire volé sous le nez de la France par les États-Unis, a rendu évidemment la France très en colère, mais pas suffisamment, semble-t-il, car Emmanuel Macron a déclaré que cette crise diplomatique était derrière eux. Alors, l'opposition a également dit que les États-Unis se sont essuyés les pieds sur la France, des mots très durs pour la France qui donc semble passer très facilement, car nous allons voir justement dans ce débat ce qui a poussé la France à oublier si facilement ce coup dur porté à son économie militaire par les États-Unis. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Lors d'une rencontre avec Joe Biden, Emmanuel Macron a laissé entendre que la crise diplomatique était derrière eux et que désormais c'était l'avenir qu'il fallait regarder. Une séquence diplomatique critiquée par une partie de l'opposition. Quelques semaines après la crise des sous-marins australiens, lors de leur rencontre le 29 octobre à Rome, les présidents français et américains ont fait part de leur enthousiasme quant à la bonne évolution des relations entre leurs deux pays. Comme si le camouflet n'était qu'un lointain souvenir, Emmanuel Macron a joué l'apaisement. « Nous avons clarifié ce que nous avions à clarifier », ainsi déclarait le président français, puis d'ajouter avec optimisme « C'est l'avenir qu'il faut regarder ». Joe Biden a confessé pour ses parts que les États-Unis avaient été maladroits avant de donner une étape amicale à son interlocuteur. Une séquence diplomatique fortement critiquée par de nombreux membres de l'opposition. À gauche, le sénateur du Parti socialiste, Rachid Temal, s'est questionné sur les propos du président américain qui évoque une simple maladresse dans ce dossier. « J'imagine si les États-Unis avaient été habiles alors, tout cela ressemble bien à une deuxième humiliation, sans broncher », a dénoncé sur Twitter le parlementaire. Le sénateur PS et porte-parole d'Arnaud Montebourg, Michael Vallée, est pour sa part revenu sur la déclaration de Joe Biden qui a également assuré que la France était l'allié le plus ancien et le plus loyal des États-Unis. « Je vous raconte pas si on n'avait pas été le plus ancien et le plus loyal », a ironisé le parlementaire. Le président de République souveraine et candidat à l'élection présidentielle de 2022, Georges Kuzmanovic, a évoqué une farce. Il a également considéré que Macron n'avait pas réagi en président d'une nation indépendante lorsque les États-Unis se sont essuyés les pieds sur la France lors du scandale des sous-marins. Le maire LR des Maisons Lafitte, Jacques Millard, a vu dans la rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden comme du cinéma hollywoodien avec des larmes de crocodile du côté américain et du « Embrassons-nous, Folleville » côté Macron, qui proclame « Regardons l'avenir », lequel sera à l'aune de la volonté de Washington.
Chers amis, vous regardez l'émission Le Débat à présent. J'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur, bonjour. Je vous entends, oui. Et je vous salue ainsi que vos invités. Et votre invité et tous nos auditeurs.
C'est un plaisir de vous recevoir, Pierre Dortiguier. Un grand bonjour également à M. Fabrice Béor, expert à l'ONG EOD depuis Moscou. Bonjour, M. Béor.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Fabrice Béor. Alors, l'opposition très en colère, l'opposition française à l'égard de cette rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, alors qu'on s'attendait à ce qu'après la crise diplomatique, c'est-à-dire les sous-marins de l'Australie, un contrat très important volé sous le nez de la France par les États-Unis. Au lieu de cela, Emmanuel Macron, au lieu d'exercer sa colère, rencontre Joe Biden comme rien ne s'était passé.
Cette affaire, c'est une farce et révélateur de la nature aujourd'hui, non pas de l'État français, mais de la classe politique française en général. Je m'explique en deux points très rapidement. C'est une farce entre Macron et Biden, parce qu'on sait très bien que la France, après ses cris de coq effarouché, s'est totalement alignée, allongée face à la volonté américaine. Aucune compensation, même d'un point de vue, médiatique, de communication, ça fonctionne très mal, parce qu'on voit bien que c'est simplement que la France s'est totalement alignée. Mais devant les cris d'Orphée, c'est le deuxième point sur lequel je veux aborder, qui est à mon avis le plus intéressant en réalité. C'est, on voit beaucoup d'hommes politiques français, dans même d'ailleurs au niveau de la majorité, on va dire, et de l'opposition, critiquer effectivement cette position américaine. Mais pour autant, il ne se pose jamais la question pourquoi la France voulait vendre des sous-marins à l'Australie et se mettre à dos la Chine. Quel est l'intérêt de la France dans l'histoire? Aucun, à part si ce n'est l'alignement à la politique américaine. Donc, aujourd'hui, on voit ces gens s'offusquer d'avoir un comportement et que la France s'aligne totalement sur les États-Unis, mais la France est dans l'OTAN. Elle est dans un état de soumission. S'ils étaient logiques, ils devraient réclamer le départ de la France de l'OTAN et non pas du commandement intégré, comme par exemple le candidat soi-disant souverainiste M. Zemmour. Donc je résume, c'est une comédie effectivement, c'est un théâtre démocratique diplomatique qui ne cache pas la vassalisation de la France dans le cadre de l'OTAN, mais on voit cette classe politique en général, même d'opposition, qui ne remet pas en cause la raison justement de cette situation, à savoir que la France est dans l'OTAN et que donc elle se soumet à la politique américaine. C'est ça la vraie question, et pourquoi continuer à être dans l'OTAN lorsque les États-Unis traitent de cette façon, et en plus, la France, quand elle-même, la classe politique française, essaye de s'extraire de cette politique américaine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle y plonge encore plus en voulant vendre des sous-marins à un pays qui est en fait une extension de l'armée américaine pour faire face, d'un point de vue militaire, à lâcher quelque chose qui cloche, allons-nous dire. Peut-être faudrait-il comprendre que la classe politique française, qu'elle soit dans l'opposition au gouvernement, fait partie de ce qu'on appelle le parti américain. Après, c'est juste une question de nuance et on place l'élément qui permet de savoir si on est plus ou moins atlantiste ou pas. Mais ça ne change pas le fond. Le problème de la France, c'est qu'elle est atlantiste.
D'accord. Pierre Dortiguier, vous êtes politologue depuis Toulouse. Merci d'être avec nous déjà. Alors, Pierre Dortiguier, il semble que la France s'est habituée à être trahi par les États-Unis, car après cette rencontre, on se rend compte que la France n'a rien à dire et dit tout simplement que cette crise diplomatique qui existe toujours est derrière eux.
Oui, c'est-à-dire que j'ai très bien entendu ce qu'a dit notre correspondant de Moscou. Je pense que je suis d'accord avec lui sur ce parti américain qui est général, que ce soit celui du gouvernement ou celui de l'opposition. Je fais d'ailleurs remarquer que le Parti socialiste, qui a été cité, a été un des plus pro-américains de toute l'histoire. Disons que c'est lui qui nous a, avec Mitterrand, par exemple, demandé en 1966, je m'en souviens très bien, protester, demander, disons, notre maintien dans l'OTAN. Bon, dans ce centre de, disons, dans cette alliance militaire. Je relève aussi, permettez-moi avant de répondre, que dans cette affaire des sous-marins, il est certain que la France n'a pas protesté, par exemple, contre le fait, n'a pas refusé, disons, de rentrer dans une alliance dirigée, bien sûr, comme tout, chacun le voit, contre la Chine. C'est vrai. Sur le fond technique, sur le plan technique, je crois que les Français ont eu tort, quand même. Ça, ce n'est jamais relevé. C'est-à-dire que nous avons proposé des sous-marins à propulsion diesel, alors que l'armée, les militaires australiens demandaient des sous-marins à propulsion nucléaire pour l'horizon, disons, 2030-2050, comme l'a très bien expliqué, d'ailleurs, un responsable militaire. De ce côté-là, je dois dire que par réalisme, je dis bien par réalisme, je trouve que ce sont les Australiens, bien sûr, qui ont raison. Et nous aurions adopté la même attitude, d'ailleurs, si ça avait été l'inverse. Il faut donc voir, disons, quel est le sens de ces relations entre les États-Unis et la France. Ces relations ont été d'abord demandées par les Français eux-mêmes, il faut le dire, il faut remonter très loin, à la fin de la guerre de 1914-18, quand nous avions de la peine à soutenir les forces de guerre, c'est nous qui avons fait entrer les Américains, évidemment, dans cette guerre mondiale. Et nous avons ensuite bien admis les Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Bien, tout ceci, disons, mériterait d'être revu en entier, toute une vision de l'histoire à revoir. Et il est certain que nous sommes enchaînés pour toujours, par le destin, je dirais, à la politique américaine. Celui qui a essayé de s'en extraire partiellement, ça a été le président de Gaulle. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a eu comme réponse? La GIF de 1968, organisée par la gauche et le Parti socialiste, évidemment, il a été obligé de démissionner dans des conditions d'ailleurs honteuses. Bien, honteuses pour la France, je veux dire. Ceci dit, nous sommes enchaînés donc à cette politique. Je crois que les protestations dont on fait état, venant du Parti socialiste en particulier et d'autres, ne sont que des manifestations préélectorales, voyez-vous. Ce qu'il y a, c'est que la France devrait, c'est ma conclusion, justement essayer de retrouver ce qui a été un peu notre politique entre les années 1964 et 1966, c'est-à-dire trouver une défense commune, par exemple envers l'Allemagne. Mais malheureusement, ces pays-là, l'Allemagne en particulier, a été soumise justement à des contraintes, voyez-vous, a été humiliée sur le plan politique. Donc nous nous retrouvons seuls, nous nous retrouvons dans l'incapacité, je dirais idéologique, incapacité même matérielle, à assurer notre propre indépendance. Et ceci est un destin. Je veux dire par destin que c'est la conséquence de fautes accumulées depuis longtemps. La France est faible. Elle ne veut pas sortir de cette situation-là. Notre américanisation, entre guillemets, bien sûr, est un état d'esprit, voyez-vous. Que l'Amérique soit forte, c'est vrai. Que l'Amérique veuille commander à l'Occident, c'est un fait. Quels sont les responsables? Moi, je dirais que les responsables sont ceux de la politique française qui, depuis, bien sûr, cette Première Guerre mondiale,
d'accord,
nous ont entraînés dans une fausse voie.
Tout à fait. Fabrice Béor, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre d'Ortiguier quand il parle d'une politique enchaînée de la France envers les États-Unis? Est-ce que la France a le choix d'être un pays indépendant et loyal?
Enchaînée, oui. Est-ce qu'elle a le choix? Évidemment, elle a toujours le choix. On dit toujours, ils ne sont forts que de nos faiblesses. Il suffit d'affirmer, d'avoir confiance en soi, c'est déjà le premier pas vers la souveraineté. Le chemin vers la souveraineté, tout du moins. Maintenant, je ferai quand même remarquer une chose, c'est que beaucoup, et dans le cadre aujourd'hui de la campagne électorale présidentielle française qui est déjà entamée, que la France revenir à une neutralité de la France et qu'il faudrait qu'elle tienne la main à la Russie et qu'en même temps aux États-Unis. Alors oui, ça c'était possible pendant la guerre froide. Ce n'est plus la guerre froide d'avant la chute de l'URSS, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis, dans leur rapport avec, entre guillemets, leurs alliés, c'est un rapport de soumission. Il ne peut pas y avoir de juste milieu. Bien que le monde soit gris, pour eux, il est blanc ou noir. Tu es avec nous ou contre nous. Il ne peut pas y avoir même d'alliés de circonstance. Sauf qu'on voit bien ce qui s'est passé en Afghanistan, on voit très bien ce qu'ils font avec leurs alliés de circonstance. Donc aujourd'hui, une position qui se dit « je me dégagerai de l'OTAN, mais en étant toujours ami », c'est un peu comme si on disait « je suis ami avec Trump et je suis ami avec Poutine ». Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas aller ensemble, puisque géopolitiquement, ce sont deux ennemis irréconciliables. La géopolitique, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas les sensations, ce n'est pas l'émotion. Ce sont des faits. Et les faits, surtout dans la géopolitique nord-américaine, qui est écrite noir sur blanc, mais beaucoup de Français, même de la classe politique française, ne lisent pas l'anglais, ou ne lisent pas du tout d'ailleurs, ne se rendent pas compte que, pour les États-Unis, aujourd'hui il y a la Chine évidemment, mais la Russie reste l'ennemi principal. Donc on ne peut pas être ami avec les États-Unis et avec la Russie. Donc si la France, pour revenir à votre question, veut être retrouver son indépendance, elle doit sortir de toutes les structures qui l'empêchent d'être indépendant. Donc au-delà des institutions européennes, qui est un problème annexe, bien que ce soit aussi important, l'essentiel, puisque combien de chars allons-nous dire, le problème, c'est l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN, pas du commandement intégré. On est dedans ou on est dehors. Si on est dedans, autant être dans toutes les structures, comme à l'heure actuelle. Mais si on veut se soustraire à l'influence américaine, il faut en sortir intégralement, pas rester dans le commandement intégré comme ça l'était auparavant, et comme le proposent certains candidats à l'élection présidentielle. Et lorsqu'on en est dehors, évidemment, on devient un ennemi des États-Unis. Ce pourquoi la France doit à ce moment-là réorienter sa politique vers l'Est et vers l'Est, et vers le bloc eurasiatique, vers Moscou, vers Pékin, vers Téhéran. C'est cela, il n'y a pas d'autre choix possible. Les autres choix possibles, ce n'est que de la communication, ce n'est que du verbiage, mais ce n'est pas quelque chose de sérieux. On est aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le bloc occidental et le bloc qu'on peut appeler de l'Est, que moi j'appelle le bloc eurasien, qui comprend donc les trois pays que je viens de citer, la Russie, la Chine et Téhéran, qui n'est pas, comme l'OTAN, un groupe avec des accords on va dire aussi fort qu'il puisse y avoir à l'OTAN, mais justement parce que c'est un bloc qui respecte la souveraineté de chacun des États, mais qui se soutient dans le cadre de la confrontation géopolitique actuelle. Et si la France veut être indépendante, elle ne peut être indépendante que si elle est proche de ce bloc eurasiatique. Et ça a toujours été d'ailleurs ses alliances en général dans le cadre de l'histoire européenne. Et depuis qu'elle a oublié, Eh bien, effectivement, elle s'est soumise au vainqueur, à celui qui occupe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'Ouest européen et même maintenant, on va dire, l'Europe continentale. Et quand on est évidemment soumis aux décisions de l'OTAN, c'est-à-dire à la politique étrangère américaine, on ne peut prétendre, même en parole, d'être indépendant. La voie de la France est toute tracée. Soit c'est une voie d'accord avec le bloc eurasiatique, soit elle continue dans la soumission. L'entre-deux, ça n'existe pas aujourd'hui.
Très juste, Fabrice Péor. Pierre Lortiguier, un mot tout de même sur cette relation entre la Grande-Bretagne et la France. C'est vrai que tout récemment, les États-Unis se sont rapprochés de la Grande-Bretagne concernant les sous-marins de l'Australie. Et de l'autre côté, ils font semer la discorde entre la Grande-Bretagne et la France concernant la pêche. Et maintenant, ils s'approchent vers la France avec cette grande rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Réagissez-vous, je vous prie.
Politique, disons, peut-on dire anglo-saxonne envers la France, est classique, elle est continue. C'est-à-dire que les pays anglo-saxons ne cherchent que leurs propres intérêts. C'est exact. Ils l'ont montré, je parle toujours des deux guerres mondiales, ils l'ont montré ainsi. Et la France, disons, ne peut. La France, la question est la suivante. A-t-elle les moyens d'une ambition politique? A-t-elle la capacité industrielle, la capacité morale aussi, de faire face à cela, de dominer, disons, de dominer une vision du monde? Je ne crois pas. Je m'explique. C'est-à-dire que nous réagissons, voyez, nous, bien sûr, mais nous n'avons pas les moyens de prendre des initiatives et d'agir. Ceci impliquerait une grande force dans le tissu industriel, une grande force également dans, peut-on dire, l'instruction publique, dans la formation idéologique, si je puis me permettre, dans le bon sens du terme. Or, tout ceci, nous ne l'avons pas. Nous sommes une société, en réalité, profondément, entre guillemets, je le répète, américanisée. Ça, c'est une grave faute. Et je crois que c'est sur ce plan idéologique, c'est sur ce plan moral que nous avons le plus grave déficit. Alors, pour répondre à votre question, il est certain que les relations entre nous et la Grande-Bretagne, par exemple, seront toujours des relations, disons, qui ne pourront pas être des fusions. Nous avons eu toujours des conflits d'intérêts. Ce n'est pas le même tempérament. Il y a un côté réaliste et dominateur de la Grande-Bretagne qui ne correspond pas à un côté réaliste des Français. Je crois que, je reprends, c'est une idée qui est celle de ma génération. Nous avons connu, par exemple, l'alliance, la coopération franco-allemande avec De Gaulle. Il est certain que la France pourrait avoir, en effet, comme le dit le correspondant de Moscou, une attitude, disons, de dégagement de l'OTAN et de rapprochement avec l'Est, mais ceci ne peut se faire qu'avec l'accord de pays européens. Et là, ce sera ma conclusion, nous payons très très cher notre politique des deux guerres mondiales, surtout de la première, dans laquelle nous sommes alliés à l'Angleterre, contre des intérêts communs qui étaient les intérêts de l'Europe de l'époque.
Donc, Pierre Lortiguier, la France n'a plus le moyen d'être un pays indépendant et va continuer à se soumettre au désir des États-Unis.
Oui, exactement. Permettez-moi cette comparaison dramatique. Comme un malade, par exemple, qui est sur un lit d'hôpital, a besoin de médicaments. Eh bien, ces médicaments nous sont fournis par les Américains. Nous n'avons plus la capacité d'assumer la vie par notre propre souffle, si je puis dire. Ce sont des images que je vous donne. Mais malheureusement, nous pouvons le dire. Disons, ma génération, je puis me permettre, peut le dire parce qu'elle a connu, dans les années 60, un espoir. Elle a vécu, justement, ce rêve-là. Et ce rêve a été cassé. Malheureusement, il a été cassé par la gauche. Il a été cassé par le Parti socialiste. N'oublions pas deux choses. C'est que l'arrivée de l'idéologie socialiste au pouvoir, qui est celle aujourd'hui aussi de M. Macron, elle a permis le maintien dans l'OTAN. Elle a permis aussi, je dirais une chose qui me vient à l'esprit, mais je me rappelle de M. Mitterrand allant s'excuser à la Knesset, en Israël, de la politique française, voyez-vous. Tout ceci, cette même gauche qui a fait toutes nos politiques coloniales, qui a été la plus avancée, disons, dans l'asservissement, voyez-vous, aux Américains, eh bien, je ne crois pas que, malheureusement, que celle-ci, cette gauche qui est toujours dans les esprits, c'est pas une question de parti politique, voyez-vous, cette sorte de manque de courage, si je puis dire, qui nous caractérise, qui caractérise surtout la génération actuelle, je le dis avec sévérité, mais c'est exact, eh bien, évidemment, elle ne peut pas permettre, disons, ces
bonnes idées et ces bonnes relations que notre correspondant de Moscou a données, nous pouvons le dire en paroles. Mais il n'y a pas que les paroles, il y a également la capacité, c'est ce qu'on appelle le courage, si je puis dire. Ça, ce courage-là nous fait défaut et malheureusement, nous serons entraînés dans ce conflit inévitable, ce sera ma conclusion, entre l'Est, entre l'Ouest et l'Est, que votre correspondant a marqué. Personnellement, j'y crois, c'est malheureusement une fatalité, et je ne crois pas que la France y soit préparée.
Fabrice Péor, est-ce que vous voulez bien réagir et conclure, je vous prie?
Oui, je porterai un bémol quand on dit le socialisme. Non, la gauche social-démocrate. Le socialisme, c'est une idée plus large, et qui n'est pas responsable des social traites qui ont été nommées auparavant, qui effectivement étaient responsables de la colonisation et qui effectivement, face à De Gaulle, ont tout fait pour trouver dans les États-Unis un allié pour arriver au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir, on ne va pas parler après des French American Productions et tout. Mais oui, maintenant, si, il y a toujours un espoir, même s'il est très faible, mais il ne peut exister pour la France de la classe politique, qu'elle soit au pouvoir ou qu'elle soit aux extrêmes, c'est cette même idéologie effectivement tout. Donc c'est une solution pour choc. Nietzsche disait que l'Europe, je ne parle pas d'une européenne bien évidemment, je pense que les gens, malheureusement, je dis bien malheureusement, réagiront, comprendront, refuseront cette propagande, parce qu'en France, la culture géopolitique historique aux relations internationales est très très faible, si ce n'est nulle, réagiront lorsqu'ils auront pu s'abonner à Netflix et ils auront pu assez pour nourrir leur famille dans le frigo. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle se trouve. Malheureusement, la France, aujourd'hui, d'un point de vue industriel, n'a plus la force de sa prétention et elle a une classe politique qui est totalement alignée et qui a démissionné. Ça commence à partir en fait de Giscard d'Estaing, qui ne croit plus dans le destin de la France. Quand vous avez des élites qui ne croient plus dans le destin de la France, vous avez aujourd'hui le résultat, un pays qui devient satellite du bloc occidental, c'est-à-dire l'impérialisme américain, et qui de temps en temps peut avoir quelques petits soubresauts, mais c'est des soubresauts du malade qui a des convulsions avant de trépasser. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. C'est pourquoi aujourd'hui, je le dis, et ça va ma conclusion, pour l'Europe, l'espoir, il est à l'Est et la capitale s'appelle Moscou.
Fabrice Béor, expert à l'ONG EOT, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Le faux coup d'État militaire au Soudan. Les États-Unis, qui ont perdu la guerre en Syrie, ont été contraints de laisser le pays sous protection russe. Ils poursuivent désormais leur guerre contre les institutions étatiques dans la Corne de l'Afrique. Ils ont encouragé les rivalités des tribus soudanaises et tentent de faire passer le renvoi des ministres civils par les militaires comme un coup d'État militaire. En réalité, ceux-ci n'ont pas renversé le Premier ministre, mais tenté de préserver l'unité de ce qui reste du pays après la sécession du Soudan du Sud. Souvenez-vous, au cours des années 2000, un conflit très meurtrier opposait le sud au nord du Soudan. Les apparences y étaient trompeuses car des sociétés militaires privées américaines, notamment DynCorp International, s'y battaient déguisées en autochtones. En définitive, les autoproclamés, donc amis du Soudan, les États-Unis, la Norvège, le Royaume-Uni, imposèrent l'accord de Naivasha qui déboucha en 2011 sur la sécession du Soudan du Sud, aujourd'hui sous protectorat de fait des États-Unis et du régime israélien. Cette guerre, nourrie par des rivalités locales mais voulue par Israël et financée par les États-Unis, a permis la création d'un État tampon permettant de tenir en joue les riverains d'Israël. Dans les années 50-70, Israël entendait créer ou annexer les États donc au sud du Liban, sud de la rivière Litani, à l'ouest de la Syrie, le plateau du Golan, et en Égypte, le mont Sinaï, au nom de son droit à la sécurité. Au contraire, avec la généralisation des missiles à moyenne portée, Israël a poursuivi la même stratégie, mais en cherchant à créer des États fantoches capables de prendre à revers leurs voisins immédiats. D'où la création du Soudan du Sud en 2011 et la tentative de création d'un Kurdistan en Irak en 2017. On a reparlé de ce qui reste du Soudan lors du renversement de la branche rebelle des frères musulmans dirigée par Omar el-Béchir en avril 2019. Il apparut rapidement que le pouvoir était passé aux mains du milicien Janjaweed Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemiti. Celui-ci était devenu un mercenaire de l'Arabie Saoudite contre les Yéménites et comme il était accusé de crimes de guerre lors du conflit du Darfour, donc dans le sud-ouest du Soudan actuel, Hemeti se cacha derrière le chef d'état-major des armées, le général Abdel Fattah al-Burhan, dont il devint l'adjoint. En juin 2019, l'Allemagne, reprenant la dénomination du groupe qui créa le Soudan du Sud, organisa un autre groupe informel homonyme, les Amis du Soudan, puis une visioconférence depuis Berlin. Au cours de celle-ci, les nouvelles règles du jeu, donc la transition démocratique, furent sorties du chapeau sans que l'on sache bien qui les avait rédigées. Elles furent adoptées le 17 juillet par les parties soudanaises, suivies par un projet de constitution le 4 août. Notez bien que ces documents ne furent pas signés par le général al-Burhan, mais par son adjoint en personne, le milicien Hemeti. Le pouvoir fut donc partagé entre civils et militaires. Un gouvernement fut constitué autour d'Abdallah Hamdok, un haut fonctionnaire soudanais de l'ONU. En février 2020, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontra le général al-Burhan en Thèbes, donc en Ouganda. Rapidement, les deux pays normalisèrent les relations. Les États-Unis, quant à eux, organisèrent la reconnaissance par le gouvernement de transition du rôle attribué au régime d'Omar el-Béchir dans les attentats d'Al-Qaïda qui auraient commis donc en 1988 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Une pluie de dollars s'abattit alors sur le Soudan. En mars 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies, après avoir décidé de retirer ses 15 000 casques bleus du Darfour, invita le gouvernement de transition à y déployer 12 000 soldats et créa une mission pour l'assistance à la transition, la MINUATS, donc composée de 300 civils. À la surprise générale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, nomma l'Allemand Volker Perthes à la tête de la MINUATS. Ancien directeur du principal think tank du gouvernement allemand, le SWP, M. Perthes a été le rédacteur du plan de reddition de la République arabe syrienne pour le compte de Jeffrey Feltman, alors numéro 2 de l'ONU. il y planifiait l'abolition de la souveraineté populaire syrienne, la dissolution de tous les organes constitutionnels, le jugement et l'exécution des 120 principaux dirigeants et envisageait la partition du pays. C'est alors que le président Joe Biden a bâti sa carte maîtresse en désignant Jeffrey Feltman comme son représentant spécial dans la Corne de l'Afrique, Soudan inclus. Il était désormais évident que les règles de la transition démocratique avaient été discrètement écrites par Volker Perthes en collaboration avec ses amis américains avant la conférence de Berlin. L'ambassadeur Jeffrey Feltman est une personnalité de premier plan de l'État profond américain. Il a notamment joué un rôle dans le processus de paix israélo-palestinien et a participé à la création du Kurdistan irakien pour le compte de la société privée dite « Autorité provisoire de la coalition en Irak ». Puis est devenu ambassadeur à Beyrouth où il a organisé la révolution de couleur de 2005 donc, et les fausses accusations de meurtre contre les présidents libanais et syriens Émile Lahout et Bachar al-Assad. Il fut aussi assistant de la secrétaire d'État Hillary Clinton pour le Moyen-Orient. Il devint directeur des affaires politiques des Nations Unies, poste où il détourna les moyens de l'ONU au service de la guerre contre la Syrie, y compris le soutien aux terroristes. Il s'était fait oublier durant le mandat de Donald Trump, se mettant au service du Qatar. En mai 2021, la France organisait à Paris une suite de la visioconférence de Berlin et on y évoquait les questions financières et envisageait d'octroyer 2 milliards de dollars au Soudan, dont 1,5 milliard pour lui permettre de rembourser ses arriérés au FMI. La population soudanaise souffre de la misère et, dans certaines régions, de la faim. Et seules certaines tribus se reconnaissent dans le gouvernement civil. Elles espèrent une vie meilleure avec le gouvernement civil, tandis que d'autres considèrent ce gouvernement comme un ennemi tribal. Ces dernières ont donc appelé les militaires à défendre leurs intérêts et depuis plusieurs mois, un début de guerre civile a commencé. C'est donc avec raison que les militaires soutenus par l'Arabie Saoudite ont menacé de contraindre le gouvernement civil à la démission. Soucieux de rétablir la paix civile, le président Joe Biden a envoyé Jeffrey Feltman à Khartoum au début du mois, puis une seconde fois le 23 octobre pour rencontrer les deux parties. Et à chacune, il a expliqué que le soutien financier de l'Occident ne se maintiendrait que si les Soudanais restaient unis. Le général Al-Burhan s'est engagé à tout faire pour préserver l'unité du pays. L'ambassadeur Feltman est resté deux nuits à Khartoum. Dès l'envol de l'avion de Feltman le 25 octobre, au petit matin, le général Al-Burhan et son adjoint Emiti exigeaient la démission du gouvernement, pas du premier ministre Abdallah Hamdok. Comme il l'avait indiqué à l'émissaire américain, ils entendaient le contraindre à former une nouvelle équipe plus respectueuse des équilibres tribaux. Mais le premier ministre refusa. Aussi, moins d'une heure après le départ de l'avion de Feltman, il fut assigné en résidence surveillée. Les États-Unis, la Banque mondiale et le FMI ont immédiatement hurlé au coup d'État militaire et suspendu leur aide financière. Le pays, déjà au bord de l'asphyxie, y a plongé instantanément. L'Union africaine a condamné le coup, mais l'Égypte, tout en appelant les deux parties soudanaises au dialogue, semblait heureuse du dénouement. Le général Al-Burhan serait un camarade d'école militaire du président Al-Sisi. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se sont peu exprimés et n'ont rien dit sur la continuation de leur précieuse aide financière. La Turquie aussi s'est tue, Ankara a loué pour 99 ans l'île de Souakin au Soudan pour y installer une base militaire et contrôler ainsi la mer Rouge contre l'Arabie Saoudite. Washington a présenté au Conseil de sécurité un projet de résolution condamnant le coup d'État militaire et instaurant des sanctions, mais la Russie a demandé quelques jours pour vérifier ces informations. Moscou, qui se souvient des mensonges ayant permis la guerre contre la Libye, a l'impression que l'on diffuse des informations biaisées pour lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Le discours médiatique sur les méchants militaires qui écrasent les gentils démocrates ne lui paraît pas très crédible. Le ton entre les représentants des différents pays du Conseil a monté. Certains ont alors relevé que les événements n'étaient pas un coup d'État militaire à proprement parler, puisque la moitié du pays s'était rangée derrière l'armée et que celle-ci n'avait pas démis le Premier ministre. Les États-Unis donc ont repris en août la stratégie Rumsfeld-Zebrowski qui avait mené depuis le 11 septembre 2001 en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et au Yémen, faisant au moins 1 million de morts. Il ne cherche pas à favoriser un camp soudanais contre l'autre, juste à les conduire à l'affrontement jusqu'à ce qu'ils détruisent eux-mêmes les structures de l'État et ne puissent plus résister aux puissances étrangères. Durant une décennie, les amis de la Syrie, Volker Perthes et Jeffrey Feldman, nous ont tenus en haleine au Levant où finalement ils ont perdu les États-Unis, donc les ont obligés de laisser la région à la Russie. Désormais, les amis du Soudan, Volker Perthes et Jeffrey Feldman, tentent de détruire la Corne de l'Afrique en commençant par l'Éthiopie et le Soudan.
Thank you.